Chapitre 13. Université. 50. Pellerat fronça le nez lorsque Trévise et lui réintégrèrent l'étoile lointaine. Trévise haussa les épaules. Le corps humain est un puissant dispensateur d'odeurs. Le recyclage ne peut jamais agir instantanément et les parfums artificiels ne font que masquer les odeurs. Ils ne les suppriment pas. Et je suppose qu'il n'y a pas deux vaisseaux qui sentent pareil une fois qu'ils ont été occupés un certain temps par des gens différents.
C'est absolument exact. Mais avez-vous encore perçu l'odeur de ces chelles au bout d'une heure ?
Non, reconnut Pellerat.
Eh bien, vous ne percevrez pas plus celle-ci au bout d'un moment. En fait, si vous vivez suffisamment longtemps à bord du vaisseau, vous en viendrez à accueillir avec plaisir l'odeur devenue familière qui vous attendra à votre retour. Et, en passant, si jamais après ça vous devenez un vrai bourlingueur galactique, Janov, vous devrez apprendre qu'il est impoli de faire le moindre commentaire sur l'odeur régnant à bord d'un vaisseau, ou d'ailleurs sur une planète, auprès de ceux qui habitent le dit vaisseau ou la dite planète. Entre nous, bien entendu, il n'y a pas de mal.
À vrai dire, Golan, le plus drôle, c'est qu'effectivement je me considère comme chez moi à bord de l'étoile lointaine. Au moins il est fabriqué par la Fondation.
Pellerat sourit.
Vous savez, je ne me suis jamais considéré comme un patriote. Je me plais à penser que je ne reconnais que l'humanité tout entière pour nation, mais je dois admettre que me trouver loin de la Fondation m'emplit le cœur d'amour pour elle.
Trévise était en train de défaire son lit. Vous n'êtes pas si loin que ça de la Fondation, vous savez. L'Union Seychelloise est presque entièrement entourée par le territoire de la Fédération. Nous avons un ambassadeur ici, et notre présence est considérable depuis les consuls jusqu'au bas de l'échelle. Les Seychellois aiment à s'opposer à nous en parole, mais en général, ils se gardent bien de rien faire qui puisse nous froisser.
Janov, allez donc vous coucher.
On n'a abouti à rien aujourd'hui, et il faudra faire mieux demain.
Toutefois, il n'était pas difficile de s'entendre d'une cabine à l'autre, et une fois que le vaisseau fut plongé dans le noir, Pellerat, qui n'avait pas cessé de se retourner, finit par dire, pas très fort, « Golan ?»
Oui.
Vous ne dormez pas?
Pas tant que vous parlerez.
On a tout de même abouti à quelque chose aujourd'hui. Votre ami Compor, ex-ami,
grommela Trévise.
Si vous voulez. Il a parlé de la Terre et nous a révélé un point que je n'avais jamais rencontré jusque-là dans mes recherches, la radioactivité.
Trévise se redressa sur un coude. Écoutez, Golan, si la Terre est vraiment morte, ça ne signifie pas qu'on va rentrer chez nous. J'ai toujours l'intention de trouver Gaïa.
Pellerat eut un petit soupir,
comme s'il voulait écarter des plumes d'un souffle.
Mais bien sûr, cher compagnon, moi aussi. Je ne pense pas non plus que la Terre soit morte. Compor nous a peut-être raconté ce qu'il croit être la vérité, mais il n'y a pratiquement pas un secteur de la galaxie qui n'ait pas un récit ou un conte plaçant l'origine de l'humanité sur quelque planète du coin. Et presque invariablement, cette planète est appelée la Terre, ou d'un nom équivalent. En anthropologie, on qualifie cette attitude de globocentrisme. Les gens ont tendance à se considérer tout naturellement supérieurs à leurs voisins, à estimer que leur culture est plus ancienne que celle des autres, et qu'elle est supérieure, à penser que ce qui est bon chez les autres, on le leur a emprunté, et que ce qui est mauvais a été soit déformé ou perverti, soit simplement inventé ailleurs. Et la tendance est de confondre l'avantage en ancienneté et la supériorité qualitative. Lorsqu'ils ne peuvent raisonnablement soutenir que leur propre planète est la Terre ou son équivalent et le berceau de l'espèce humaine, les gens font presque toujours de leur mieux pour placer la Terre dans leur propre secteur, même s'ils ne peuvent la situer avec précision.
Et vous me dites que Compor n'a fait que suivre l'habitude courante en affirmant que la Terre existait bel et bien dans le secteur de Sirius? Il reste que le secteur de Sirius a effectivement une longue histoire, donc chacune de ces planètes devrait être bien connue, et il ne doit pas être bien difficile de vérifier la chose même sans aller sur place.
Pellerat gloussa. Même si vous arriviez à montrer qu'aucune planète du secteur de Sirius ne peut valablement prétendre être la Terre, ça n'avancerait pas à grand-chose. Vous sous-estimez jusqu'à quel point le mysticisme peut enterrer le rationnel, Golan. il y a au moins une demi-douzaine de secteurs dans la galaxie où de respectables chercheurs répètent avec la plus grande solennité et sans l'ombre du moindre sourire les légendes locales racontant que la Terre, ou peu importe le nom qu'ils lui donnent, est en fait située dans l'hyperespace et demeure inaccessible sinon par accident.
Et indique-t-elle ces légendes si quelqu'un l'a effectivement atteinte accidentellement ?
Il y a toujours des légendes, et il existe toujours un refus patriotique du doute, même si ces légendes ne sont pas le moins du monde crédibles et n'ont d'ailleurs jamais été crues par personne en dehors de leur monde d'origine.
Alors, Janov, n'y croyons pas nous-mêmes, et entrons plutôt dans notre petit hyperespace personnel sous les draps.
Mais Golan, c'est cette histoire de radioactivité de la Terre qui m'intéresse, moi. Elle m'a l'air d'avoir un accent de vérité, enfin... un genre de vérité.
Que voulez-vous dire, un genre de vérité ?
Eh bien, un monde radioactif devrait être un monde où des radiations dures sont présentes en concentration plus grande que la normale. Le taux des mutations y serait plus élevé et l'évolution s'y montrerait à la fois plus rapide et plus diversifiée. Or, si vous vous souvenez, je vous ai dit que parmi les points sur lesquels s'accordent presque tous les récits, il y a cette incroyable diversité de la vie sur Terre, des millions d'espèces de toutes sortes. C'est cette diversité, ce développement explosif qui a peut-être donné l'intelligence à la Terre, ainsi que l'impulsion pour essaimer dans toute la galaxie. Si la Terre était pour quelque raison radioactive, et j'entends plus radioactive que d'autres planètes, cela pourrait rendre compte de toutes les autres caractéristiques qui font ou faisaient d'elle une planète unique.
Trévise resta quelques instants silencieux. En premier lieu, répondit-il enfin, nous n'avons aucune raison de croire que Compor a dit la vérité. Il peut fort bien nous avoir délibérément menti pour nous pousser à déguerpir d'ici et nous envoyer courir vers Sirius. Je crois d'ailleurs que c'est exactement ce qu'il a fait. Et puis, même si c'était vrai, ce qu'il nous a dit, c'est que la radioactivité était telle qu'elle avait rendu toute vie impossible.
Pellorat réitéra son petit soupir. Il n'y avait pas une radioactivité telle qu'elle eût empêché la vie de se développer, et une fois celle-ci établie, se maintenir est déjà plus facile. Admettons donc que la vie se soit établie et maintenue sur la Terre. Par conséquent, c'est que le niveau initial de la radioactivité ne pouvait pas être incompatible avec la vie et ce niveau n'aura pu que décroître avec le temps. Il n'y a rien qui puisse l'amener à s'accroître.
Des explosions nucléaires ? Suggéra Trévise.
Quel rapport avec l'accroissement de la radioactivité ?
Je veux dire, supposez que des explosions nucléaires se soient produites sur Terre.
À la surface de la Terre ?
Impossible. Il n'y a pas d'exemple dans toute l'histoire de la galaxie d'une société assez stupide pour employer les explosions nucléaires comme une arme de guerre. Jamais nous n'aurions survécu. Durant les insurrections trigaliennes, alors que les deux camps en étaient réduits à la famine et au désespoir, eh bien, quand Jandipurus Korat suggéra d'engendrer une réaction de fusion dans « il fut pendu par les matelots de sa propre flotte ». Je connais mon histoire galactique. Non. Je songeais... un accident.
On n'a pas d'exemple en général d'accident nucléaire capable d'accroître de manière significative le taux de radioactivité sur une planète.
Il soupira.
Je suppose que lorsqu'on en sera là, il faudra bien qu'on aille faire notre petite enquête dans le secteur de Sirius.
On ira bien là-bas un de ces jours, peut-être. Mais pour l'instant...
Oui, oui. J'arrête de causer.
Il se tut effectivement. Et Trévise resta près d'une heure allongé dans l'obscurité, à se demander s'il n'avait pas déjà trop attiré l'attention, et s'il ne serait pas plus raisonnable pour eux de partir pour le secteur de Sirius, quitte à repartir vers Gaïa une fois détournée l'attention générale. Il n'avait pas encore débouché sur une conclusion bien nette que le sommeil le prenait. Ses rêves furent agités. 51.
Ils ne retournèrent pas en ville avant le milieu de la matinée. L'office du tourisme était passablement bondé cette fois-ci, mais ils parvinrent toutefois à obtenir les coordonnées d'une bibliothèque de référence où on leur fournit les instructions permettant d'utiliser les systèmes locaux d'accès aux banques de données. Ils épluchèrent soigneusement musées et facultés, en commençant par les plus proches et en y glanant toutes les informations disponibles sur les anthropologues, archéologues et autres spécialistes de l'Antiquité.
« Ah !»
fit Pélorate.
« Ah ?» répéta Trévise. « Quoi, ah ?»«
Ce nom, Quintesetz, ça me dit quelque chose. »
« C'est une connaissance ?»«
Non, bien sûr que non, mais j'ai lu des articles signés par lui. »
En retournant à bord où j'ai tous mes catalogues, on ne retourne pas à bord, Janov. Si son nom vous est familier, c'est déjà un point de départ. S'il ne peut pas nous aider, il sera sans doute à même de nous orienter.
Il se leva.
On va tâcher de trouver le moyen de se rendre à l'université de Seychelles. Et puisqu'il n'y aura personne à l'heure du déjeuner, on va manger d'abord.
Ce n'est pas avant la fin de l'après-midi qu'ils arrivèrent sur les lieux. Et après s'être frayé un chemin dans le dédale du campus, ils se retrouvèrent enfin dans une antichambre, attendant une jeune femme qui était partie se renseigner et qui peut-être, ou peut-être pas, les mènerait à Quintesetz.
« Je me demande, »
dit Pélorate mal à l'aise,
« combien de temps encore on va nous faire attendre. On ne doit plus être très loin de l'heure de la fermeture. »
Et comme si ça avait été un signal, la jeune femme qui avait disparu depuis une demi-heure refit son apparition, s'avançant rapidement vers eux, dans le claquement sonore de ses étincelants souliers rouges et violets, dont le bruit variait de hauteur au rythme de ses pas. Pélorate fit la grimace. Il présuma que chaque planète devait avoir sa façon particulière d'agresser les sens, tout comme chacune avait son odeur. Il se demanda si, à présent qu'il s'était accoutumé à l'odeur de Seychelles, il n'allait pas devoir également apprendre à ne plus remarquer la cacophonie de la démarche de ces jeunes femmes à la mode. La femme se dirigea vers Pélorate et s'immobilisa devant lui.
« Puis-je avoir votre nom entier, professeur ?»«
C'est Janov Pélorate, mademoiselle. »«
Votre planète natale ?»
Trévise commença d'élever la main comme pour lui intimer le silence, mais Pélorate, soit qu'il n'eût pas vu, soit qu'il n'eût pas voulu voir, répondit.
Terminus.
La jeune femme eut un large sourire. Elle paraissait ravie.
Quand j'ai annoncé au professeur Quintesetz qu'un professeur Pélorate le demandait, il a dit qu'il vous verrait uniquement si vous étiez bien Janov Pélorate de Terminus.
Pélorate cligna rapidement des yeux.
Vous voulez dire? Il a entendu parler de moi?
Cela me paraît certain.
On entendit presque craquer le sourire de Pélorate lorsqu'il se tourna vers Trévise.
« Il a entendu parler de moi. Honnêtement, je ne pensais pas... Je veux dire, j'ai rédigé fort peu d'articles et je ne pensais pas que quelqu'un... »
Il hocha la tête.
« Il n'était pas vraiment important. »
« Eh bien alors, » dit Trévise en souriant à son tour, « cessez donc de vous complaire dans les délices de la fausse modestie et allons-y. »
Il se tourna vers la jeune femme. « Je présume, mademoiselle, que nous allons pouvoir emprunter un moyen de transport quelconque. »«
On peut y aller à pied. Nous n'aurons même pas à quitter les bâtiments, et je serai ravie de vous conduire. Êtes-vous tous les deux de Terminus ?»
Et sur cette question, elle se mit en route. Les deux hommes lui emboîtèrent le pas, et Trévise lui répondit, légèrement ennuyé.
« Oui, effectivement. Cela fait-il une différence ?»«
Oh non, bien sûr que non. »
Il y a des gens sur Seychelles qui n'aiment pas les fondateurs.
Mais ici, vous savez, à l'université, on est d'esprit plus cosmopolite. Vivre et laisser vivre, c'est ce que je dis toujours. Je veux dire, les fondateurs sont des gens comme les autres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Des tas de gens chez nous trouvent que les Seychellois sont des gens comme les autres.
C'est exactement comme ça que les choses devraient être. Je n'ai jamais vu Terminus. « Ce doit être une bien grande cité. »«
À vrai dire, non, » fit Trévise d'une voix neutre. « Je dirais même qu'elle est plus petite que Seychellesville. »«
Vous me faites marcher. C'est bien la capitale de la Fédération de la Fondation, n'est-ce pas? Je veux dire, il n'y a pas d'autre terminus, non ?»«
Non, il n'y en a qu'un seul, autant que je sache, et c'est bien de là que nous venons. La capitale de la Fédération de la Fondation. »«
Eh bien alors !» « Ce doit être une ville gigantesque. Et vous venez de si loin pour voir le professeur. Nous sommes très fiers de lui, vous savez. On le considère comme la plus grande autorité dans toute la galaxie. »«
Vraiment ?»
fit Trévise. Et dans quel domaine ?
Encore une fois, elle ouvrit de grands yeux.
Oh, vous, vous êtes vraiment rigolo.
Il en sait plus sur l'histoire antique que
je n'en sais moi-même sur ma propre famille.
Et elle les précéda de nouveau de sa démarche musicale. On ne peut pas se laisser à tout bout de champ traiter de plaisantin ou de rigolo sans finir par développer un penchant dans cette direction. Et c'est avec un sourire que Trévis demanda.
Le professeur doit tout savoir sur la Terre, je suppose.
La Terre ?
Elle s'arrêta devant la porte d'un bureau et le considéra interdite.
Vous savez bien la planète d'où est partie l'humanité.
Oh ! Vous voulez dire la planète qui vint en premier, je suppose.
Je suppose qu'il devrait tout savoir sur elle.
Après tout, elle est située dans le secteur de Seychelles.
Tout le monde sait au moins ça.
Tenez, voilà son bureau. Je vais vous annoncer.
Non.
Attendez. Intervint Trévis. Encore une minute. Parlez-moi de la Terre, plutôt.
À vrai dire, je n'ai jamais entendu personne l'appeler sous ce nom-là. Je suppose que c'est un terme de la Fondation. Ici, on l'appelle Gaïa.
Trévis lança un bref coup d'œil à Pellorat.
Oh ? Et où est-elle située ?
Nulle part. Elle est dans l'hyperespace et totalement inaccessible à quiconque. Quand j'étais petite, ma grand-mère nous disait que Gaïa se trouvait autrefois dans l'espace normal, mais que, dégoûtée par
« les crimes et la stupidité du genre humain »,
marmonna Pellorat,
elle décida, honteuse, de quitter un beau jour l'espace normal et refusa désormais d'avoir quelque chose à voir avec ces êtres humains qu'elle avait expédiés dans toute la galaxie.
Alors, vous voyez que vous connaissez l'histoire. Vous savez quoi ? Une de mes amies prétend que c'est de la superstition. Eh bien, je vais lui dire. Si c'est assez bon pour des professeurs de la Fondation.
Sur le verre fumé de la porte, une plaque brillante portait l'inscription Soten Quintesets Apt. Dans cette calligraphie séchelloise si difficile à lire, avec en dessous, dans le même lettrage impossible, Département des Antiquités. La jeune femme posa le doigt sur un disque de métal poli. Il n'y eut aucun bruit, mais le panneau de verre fumé vira au blanc laiteux, tandis qu'une voix douce et comme détachée se faisait entendre. « Identifiez-vous, s'il vous plaît. »«
Janoff Pellorat de Terminus, » dit Pellorat. « Et Golan Trévis de la même planète. »
La porte s'ouvrit immédiatement.